Décryptage.
Anne Cantner.
La tension monte encore d'un cran entre les États-Unis et l'Iran. Téhéran vient de saisir un bateau dans le détroit d'Ormuz. Les États-Unis accusent l'Iran d'être responsable des tirs ayant détruit des installations pétrolières en Arabie Saoudite. Et l'accord sur le nucléaire iranien est sérieusement compromis. Les sanctions imposées par les États-Unis depuis qu'ils ont quitté cet accord pèsent très lourd sur l'Iran. L'Iran qui a répondu en renonçant à certains de ses engagements et les autres pays signataires, eh bien, semblent assez impuissants. Alors l'accord sur le nucléaire iranien peut-il survivre? Jusqu'où l'escalade entre l'Iran et les États-Unis peut-elle se poursuivre? Bienvenue dans Décryptage. Deux invités sont avec nous pour en parler. François Nicoulot, bonsoir.
Bonsoir.
Vous avez été ambassadeur de France à Téhéran. Vous êtes aujourd'hui analyste de politique internationale. En face de vous, Clément Terme, chercheur post-doctorant au sein de l'équipe Savoir nucléaire du CERI Sciences Po. Bonsoir.
Bonsoir.
L'actualité des derniers jours nous montre à quel point ce dossier est brûlant. Samedi dernier, des tirs de drones ont donc visé des installations pétrolières en Arabie Saoudite, avec des conséquences lourdes puisque la production du pétrole du pays a été réduite de moitié. Cette attaque a été revendiquée par les rebelles houthis en guerre au Yémen voisin contre le pouvoir et contre la coalition menée par les Saoudiens. Mais Riyad et Washington accusent l'Iran. Quelles peuvent être les conséquences de ces attaques, François Nicoulot ?
On peut avoir beaucoup de conséquences, effectivement, et tout le monde y pense. On a une ambiance un peu de veillée d'armes là, en ce moment, mais les choses ne sont pas encore complètement déterminées. Alors, d'abord, on ne sait pas encore exactement d'où sont partis les tirs. Les Américains disent qu'ils ont des preuves, en effet, que les tirs qu'ont revendiqué les Houthis, donc les Yéménites, les rebelles yéménites, sont en fait partis du territoire iranien. C'est possible, on attend les démonstrations, mais à vrai dire, ça n'a pas beaucoup d'importance dans la mesure où tout le monde croit maintenant, où tout le monde est en train de se persuader que ce sont bien les Iraniens qui sont derrière l'affaire. Et en ce sens, les Iraniens ont peut-être atteint le résultat qu'ils recherchaient, peut-être sans le vouloir, on le saura un peu plus tard. Les Iraniens ont dit depuis longtemps que s'ils n'arrivaient pas exporter leur pétrole, personne ne pourrait en exporter. Hein. Ça, ils l'ont dit depuis de longs mois, depuis que les sanctions américaines se sont durcies et ont visé depuis plus d'un an à empêcher l'Iran de vendre la moindre goutte de pétrole. Et donc, en ce moment, les Américains et les Saoudiens sont quand même devant une difficulté parce que les Iraniens, au fond, jouent le tout pour le tout. Ils ont dit que s'ils étaient attaqués, ils n'hésiteraient pas à attaquer eux-mêmes les bases américaines, attaquer des bases saoudiennes. Ce sont un peu les Saoudiens qui doivent choisir maintenant. Ils ont été humiliés, hein, manifestement, par cette affaire. C'est un coup dur pour Mohamed Ben Salman, le prince héritier qui a déclenché la guerre au Yémen en 2015. Son prestige va certainement être ébranlé, peut-être sa place à l'intérieur du système. Et maintenant, les Saoudiens sont devant quand même un dilemme parce que s'ils disent « il faut frapper l'Iran », ils prennent quand même une très lourde responsabilité. Et je me demande s'ils vont la prendre. Je pense qu'à mon avis, ils vont probablement pas la prendre.
Alors, il y a quelque temps, on était déjà passé, ou en tout cas, c'était les craintes qui avaient été exprimées à côté d'un conflit. Des incidents avaient opposé l'Iran et les États-Unis. En juin, quand l'Iran avait abattu un drone américain, Donald Trump avait annulé à la dernière minute des bombardements de représailles. Et la perspective d'un affrontement armé s'était éloignée, du moins à ce moment-là. Clément Terme, pensez-vous que ces attaques contre l'Arabie Saoudite puissent changer la donne ?
Ben, ça change la donne sur le marché du pétrole. Donc le risque, c'est que la confrontation économique, comme l'expliquait l'ambassadeur Nicolo, se transforme en conflit militaire, puisque si l'Iran bloque les exportations ou la production pétrolière, comme dans le cas présent de l'Arabie Saoudite, qui va être réduite de moitié, pour rétorquer aux mesures américaines qui ont réduit la production iranienne à un quart de ce qu'elle était avant les sanctions.
Donc, parce qu'en 2018, la production était de 2,5 millions de barils par jour, si je ne me trompe pas, et elle est tombée à un peu moins de 500 000.
Les exportations de pétrole étaient 2,2 millions de barils par jour en moyenne et sont aujourd'hui de moins un demi-million. La production, elle est plutôt de 3,5, 3,7 selon les estimations, puisqu'il y a une consommation interne qui est importante, puisque l'Iran a une population de plus de 80 millions d'habitants. Mais le cas présent est assez problématique pour le président américain. Parce que là, il va être confronté à une élection en 2020. Et s'il y a une flambée des prix du pétrole, aujourd'hui on était à plus 12%, ça peut le menacer aussi, lui, vis-à-vis de son électorat. Donc c'est clair qu'il a fait campagne contre une nouvelle intervention militaire au Moyen-Orient. Mais si l'Arabie Saoudite, un des principaux producteurs et un producteur clé pour l'équilibre du marché pétrolier, est touché dans la longue durée, peut-être il va devoir prendre des mesures sécuritaires, donc de renforcement de la présence militaire américaine pour protéger le marché pétrolier. Parce que s'il veut poursuivre en même temps cette politique d'empêcher l'Iran d'exporter, la menace va pas s'en aller. Donc si vous voulez, les raisons qu'il y a actuellement, qui font qu'il y a un conflit en ce moment dans la région, et qui vous avez déjà mentionné au mois de juin, qui était déjà présente depuis le mois d'avril exactement, les premières prises de bateaux pétroliers, des tankers à l'époque, au large des Émirats Arabes Unis. Donc cette tension, en fait, va perdurer tant que les États-Unis vont mener cette politique vis-à-vis de l'Iran de pression maximale. Pour l'instant, rien n'indique que le président américain va changer de position, puisqu'il est dans un défi vis-à-vis de l'Iran. Il dit que l'Iran était dans une position déplorable sur le plan économique et qu'ils sont sur le point de céder, qu'il va faire un meilleur deal qu'Obama. Donc s'il sort pas de ce récit-là, il s'est bloqué dans une situation, dans une impasse dans laquelle il s'est mis lui-même. Ça sera très difficile de sortir par le haut et d'avoir un dialogue et une paix dans la région, parce que l'Iran peut pas accepter que les autres exportent leur pétrole s'il est bloqué complètement par les Américains.
En toile de fond, il y a donc ces tensions autour du programme nucléaire iranien. Téhéran a installé ou est en train d'installer une vingtaine de centrifugeuses plus sophistiquées et plus rapides que les précédentes. C'est la dernière étape de ces tensions qui montent, puisque l'Iran s'était déjà affranchi d'un certain nombre de ses engagements. Clément Terme, est-ce que ça signifie que l'accord signé en 2015 est caduc ?
Alors c'est la réponse de l'Iran à la politique de Trump sur l'accord sur le nucléaire, c'est moins pour moins. C'est-à-dire que les Américains, eux, sont sortis du deal. Les Européens, eux, n'achètent plus de pétrole à l'Iran et ne respectent pas non plus leur part de l'accord, qui était de récompenser économiquement l'Iran pour le respect de l'accord et pour les restrictions que l'Iran avait acceptées, qui vont plus loin que le traité de non-prolifération. Donc on est dans une situation où les Européens se retirent de l'accord sans le dire sur le plan économique. On le voit avec le cas de Peugeot, par exemple, ou de Renault, qui ont quitté le marché iranien sous injonction des États-Unis, en fait. Donc la France n'a pas été en mesure, par exemple, de protéger ses propres entreprises en Iran contre la politique américaine. Donc finalement, les Européens n'ont pas réussi à sauver cet accord sur le plan économique. Et les Russes et les Chinois ont plus d'indépendance, mais ont aussi quand même une sensibilité vis-à-vis des pressions américaines. Donc l'Iran se retrouve dans une situation économique totalement bloquée. Ils ne peuvent pas fournir un développement économique à la population. Donc ils présentent la situation comme un jeu à somme nulle. Soit c'est l'insécurité, ils disent, parce que si on change la politique régionale de l'Iran, c'est le message qu'ils essayent de faire passer en interne. Ils disent finalement on va avoir une instabilité comme on trouve en Irak ou en Afghanistan, donc ils menacent la population d'un effondrement de l'État, et en même temps ils disent que c'est pas possible d'avoir en même temps la sécurité et en même temps le développement économique. Donc c'est vraiment un durcissement sécuritaire et un effondrement économique que connaît l'Iran actuellement, et l'Europe ne semble pas en mesure de sauver cet accord sur le plan économique malgré les efforts diplomatiques.
L'Iran qui est effectivement sous une pression très forte, imposée par les États-Unis, puisque un an après s'être retiré de l'accord sur le nucléaire iranien, Donald Trump a imposé de nouvelles sanctions à l'Iran, qui est aujourd'hui complètement étouffé économiquement. François Nicolau, que cherchent les Américains exactement ?
C'est toujours la difficulté avec l'administration américaine, c'est que c'est pas univoque, hein. Loin de là. Il y a un mélange. Il y a des gens qui cherchent manifestement le régime change, le changement de régime, ça c'est très clair. Parmi ceux-là, il y avait par exemple John Bolton, le conseiller à la sécurité nationale, qui a d'ailleurs été viré récemment par Donald Trump, et lui qui, dans un congrès d'opposants au régime actuel, avait dit, l'année prochaine à Téhéran, en 2019, pour le 40e anniversaire de la République islamique, voilà, vous, l'opposition, c'était les Moudjahidines du peuple, on sera tous, pour fêter la disparition du régime, on sera tous à Téhéran, il l'a dit en 2017, il dit en 2019, voilà, ça c'est les plus durs. Il y a ceux qui, probablement, veulent mettre l'Iran à genoux pour obtenir un certain nombre de concessions, pour obtenir des évolutions du régime. Et puis, il y a le problème, c'est que tout ceci quand même converge vers Donald Trump. Et Donald Trump, on ne sait pas très bien ce qu'il veut. Il y a des moments où il trouve que Rouhani, le président iranien, est quelqu'un d'épatant avec lequel il veut lui serrer la main, tout va s'arranger. Il y a d'autres moments où il menace l'Iran de destruction en disant qu'il a le doigt sur la gâchette. Voilà, il oscille et c'est pas le seul sujet sur lequel il oscille. Mais donc, on a énormément de mal et c'est une difficulté d'ailleurs de la médiation que les Français essayent de faire, que le président Macron essaye de rapprocher les points de vue, c'est d'arriver à avoir une position stable des deux côtés. Et donc, comme, pour terminer sur le côté américain, comme il y a des buts finalement très divers et assez contradictoires, tout le monde se met d'accord sur une règle minimum, sur un principe minimum, c'est la pression maximale. Alors, où la pression maximale va terminer, personne n'en sait rien. Qu'est-ce qu'on fera après la pression maximale? On n'en sait rien. Donc la pression maximale est devenue un but en soi, on en est là aujourd'hui.
Est-ce que Donald Trump joue aussi au niveau intérieur, entre guillemets, c'est-à-dire en défaisant quelque chose qui avait été construit par son prédécesseur,
Barack
Obama?
Oui, alors ça, en effet, vous avez raison d'en parler, parce que si on recherche vraiment à la fin des fins des choses, s'il y a vraiment quelque chose qui motive Donald Trump, c'est de détruire tout ce qu'a fait Obama. Hein. Et donc, sur le plan intérieur, il a démoli le système de sécurité sociale instauré par Obama, qui était ce qu'il avait fait de mieux. Et qu'est-ce qu'Obama avait fait de mieux sur le plan extérieur? C'était l'accord avec l'Iran. Donc, il a eu une obsession, c'est de casser cela. Mais en même temps, il le casse, mais il dit qu'il va faire mieux qu'Obama. Et c'est là qu'il est un petit peu piégé, parce qu'il va avoir des élections, et il faut qu'il apporte, qu'il démontre qu'il a réussi quelque chose sur le plan diplomatique. Et pour le moment, son bilan est plus que maigre. Hein. Ça marche pas très bien dans ses négociations avec la Corée du Nord. Et avec l'Iran, on est dans une situation bloquée.
Le tout dans un délai assez court, puisque l'élection américaine est donc prévue l'année prochaine.
Décryptage sur RFI. Anne Contner.
On l'a évoqué il y a quelques instants, le président français tente depuis quelques temps, depuis 2 ou 3 mois, de jouer un rôle d'intermédiaire entre les États-Unis et l'Iran. Quelle est sa marge de manœuvre, François Nicolau?
Elle est étroite, hein. Je crois qu'elle est véritablement étroite. Il faut le féliciter d'essayer. Et d'essayer avec autant de ténacité, de rapprocher les points de vue. Il passe beaucoup de temps au téléphone avec les uns et les autres. Il a élaboré des idées astucieuses, des montages astucieux pour arriver à réconcilier les deux. Mais en fait, on est encore très très loin d'un résultat satisfaisant. Et l'idée d'une rencontre qui pourrait sceller la réconciliation. Une entente donc entre Iran et États-Unis, cette rencontre Donald Trump-Rouhani dont on avait pensé qu'elle pourrait avoir lieu à l'Assemblée générale des Nations Unies, qui s'ouvre demain, paraît vraiment maintenant hors de portée.
Le président iranien a en tout cas répété aujourd'hui que pour lui, il n'en était pas question pour l'instant. Alors depuis que les États-Unis ont quitté l'accord, les autres pays signataires n'ont pas vraiment réagi. On a eu l'occasion de l'aborder très rapidement. Il y a eu quelques discours, des appels de l'Union européenne, mais peu d'actes finalement. De quelle légitimité les Européens disposent-ils aujourd'hui, Clément Terme?
Elle est très faible parce que sur le plan économique, ils n'ont pas la maîtrise, le contrôle sur leurs propres acteurs économiques. Donc par exemple, quand le président français parle d'une ligne de crédit de 15 milliards, la Banque de France n'est pas favorable. Donc qui doit garantir ce crédit? Ou la Banque Centrale Européenne, parce qu'ils veulent utiliser des dollars, ils peuvent être sanctionnés par les États-Unis. Donc il n'y a pas de possibilité, si vous voulez, dans l'accord sur le nucléaire, il y a une partie économique. Donc il n'y a pas de souveraineté économique ni au niveau national de la France et ni au niveau européen. Donc il n'y a pas de capacité, si vous voulez, des Européens à résister à la pression américaine sur le dossier iranien. En plus, il y a aussi des convergences entre les Européens et les Américains sur d'autres dossiers que le nucléaire. C'est-à-dire sur la question des droits de l'homme, par exemple. C'est un des seuls domaines où l'administration Trump s'occupe des droits de l'homme, c'est l'Iran. Donc c'est assez original, parce que sur d'autres pays, par exemple l'Égypte, l'administration Trump ne parle jamais des droits de l'homme. Mais sur l'Iran, elle insiste là-dessus, et les Européens aussi. Il y a la question balistique également. Donc là aussi, les Européens, surtout les Français, sont alignés sur les Américains et les positions de l'Arabie Saoudite et d'Israël. Et enfin, il y a cette question de la sécurité régionale et du rôle de l'Iran dans la région, où là, vous allez voir que la France, par exemple, a exactement les mêmes alliés et soumise aux mêmes pressions que les États-Unis, à savoir les pressions d'Israël et de l'Arabie Saoudite notamment. La médiation française a pu avoir lieu parce que les Émirats Arabes Unis aussi ont changé de position. Donc ça, ça a créé un contexte favorable pour le président Macron, puisque un des principaux alliés de la France dans la région a basculé dans un camp, disons, plus modéré, s'est éloigné de l'Arabie Saoudite, parce que les Émirats Arabes Unis ont jugé au mois d'avril-mai, donc au printemps, quand les premières tensions militaires ont émergé dans la région, que la prospérité économique de la zone était menacée. Parce qu'à ce moment-là, on a vu déjà que les prix des assurances pour les pétroliers augmentaient, que les liaisons aériennes pouvaient être perturbées. Donc on a vu que la nouvelle situation, la nouvelle tension militaire avait des conséquences économiques pour la région. Et Dubaï, par exemple, allait souffrir très grandement de l'effondrement économique potentiel de l'Iran. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que l'Arabie Saoudite, certes, peut bénéficier de l'arrêt des exportations pétrolières iraniennes. Et c'est pour ça qu'il y a cette rivalité qui est exacerbée en ce moment. C'est pas une rivalité religieuse comme on entend souvent. C'est d'abord une rivalité économique pour le marché pétrolier. Et donc les Émirats ont créé cet espace dans la région. Et puis il y a le Qatar aussi, qui a une position beaucoup plus modérée et très différente de l'Arabie Saoudite, et le Sultanat d'Oman. Donc la France a pu, avec ses partenaires régionaux, développer un point de vue différent. Mais la confrontation, si vous voulez, entre l'administration Trump et la République islamique est en train d'emporter ces bonnes volontés, si vous voulez, qui cherchent l'apaisement. Parce que dans cette dynamique qu'on voit actuellement, il est très difficile, avec la guerre au Yémen, les tensions qui perdurent en Irak, de trouver un apaisement, parce qu'il y a des acteurs locaux aussi qui peuvent avoir un intérêt à un moment ponctuel de déclencher un incident militaire.
Alors on parle beaucoup des Européens qui ont effectivement tenté, ou en tout cas pour la France, de mettre en place certaines mesures, d'essayer de créer des échanges et des discussions. Il y a quand même deux autres pays qui étaient signataires de l'accord de 2015, la Russie et la Chine. Est-ce que la solution pourrait venir de ces deux États, François Nicolau ?
Clément Terme en a un petit peu parlé. Bon, ils sont peut-être moins liés aux États-Unis, mais en fait, ils le sont quand même pas mal. C'est-à-dire que les Chinois, par exemple, sont en crise avec les États-Unis, on le sait bien, hein, avec cette guerre commerciale, cette guerre des droits de douane, et la Chine ne va pas sacrifier ses intérêts centraux, hein, dans cette affaire, pour les beaux yeux de l'Iran, on le voit bien. Si au dernier moment il faut choisir entre les États-Unis, trouver un arrangement avec les États-Unis, dont évidemment la bonne volonté est quand même essentielle, hein, pour le bon fonctionnement de l'économie chinoise, et l'Iran, hein, le choix sera vite fait. Et alors les Russes pourraient aider, ils pourraient en principe aider l'Iran, par exemple, à exporter son pétrole, mais ils sont finalement eux-mêmes assez prudents, parce qu'ils ont quand même aussi de grosses difficultés, ils sont sous sanctions, on le sait bien, donc ils ne veulent pas charger la barque, en quelque sorte. Et donc l'Iran est très seul, hein, les Européens, Clément Terme a bien développé leur faiblesse. Hein. C'est pas qu'il y a la bonne volonté politique. Au niveau politique, les Européens voudraient bien trouver une solution. Mais on vit dans une situation de marché libre, et les sociétés n'obéissent pas aux États. Elles n'obéissent plus aux États. Même les sociétés, dans le temps, Air France était une compagnie nationale, Renault était une compagnie nationale, Airbus, on dit que c'est une société française. Airbus, c'est une société néerlandaise. Hein,
Airbus,
se fiche
complètement
des instructions qu'ils peuvent recevoir du gouvernement français.
Airbus, d'ailleurs, qui avait signé un gros contrat avec l'Iran, qui devait livrer 100 appareils à l'Iran, et qui n'en a livré que 3 depuis. Tout est en attente depuis que les États-Unis ont décidé de se retirer donc de cet accord. Merci à tous les deux d'avoir participé à cette émission. François Nicolau, ancien ambassadeur de France à Téhéran, analyste de politique internationale désormais, et Clément Terme, chercheur chercheur au sein de l'équipe Savoir Nucléaire du CERI Sciences Po. Merci à tous d'avoir été avec nous. Très bonne soirée et à demain.